Bonjour. J'avais peur de passer après Forest pour le micro aussi, moi. En fait, au début de la réunion, j'ai discuté avec Ira et Alex, et je leur disais, aujourd'hui, j'espère vraiment faire tout le quatrième voyage de Paul, on va le terminer et ce sera fait. Et puis en rigolant, je lui dis, bah si j'ai pas le temps, je couperai en deux, et la fois prochaine, je ramènerai un questionnaire pour tester et voir ce qui reste. Il y a moins de monde qui rigole, hein, déjà. Donc en fait, on va commencer, toujours, et sachez que la fois prochaine, je reviendrai avec des questions, voir s'il faut pas tout reprendre depuis le début, s'ils avaient quand même retenu une partie. Alors, en fait, ça tombe vraiment bien, tout ce qui a été dit, ça se... J'ai pas grand chose à dire. Quand on prend le voyage de Paul, donc on avait vu le troisième voyage, et en fait il s'est dépêché de retourner à Jérusalem, il s'est arrêté pas longtemps à Troas, il s'est arrêté pas longtemps à Éphèse, et il est retourné très rapidement à Jérusalem. Et en fait, tout au long de la route, il y a des gens qui l'ont découragé. Et on lit ça dans Actes 21. Donc on nous raconte la route qu'il a pris pour le retour. Et au verset 4, donc c'est Luc qui raconte, « Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. » Et en fait, à plusieurs endroits, on voit les disciples qui disent à Paul, « Va pas à Jérusalem, va pas à Jérusalem. » Et là, on nous dit même que les disciples étaient poussés par l'esprit de dire ça à Paul. Et c'est bizarre, en fait, parce que Paul, il a reçu des choses du Seigneur et il le dit lui-même. Mais je sais plus où. Voilà, il le disait en fait au chapitre 20, au verset 22. « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et en fait, il y a des choses qui viennent du Saint-Esprit et qui sont contradictoires dans ces versets-là. On n'a pas le temps de tout lire, mais il y a un prophète Agabus qui dit à Paul qu'il va se retrouver lié. Il prend une ceinture qu'il met autour de ses poignets et dit la ceinture à qui appartient, l'homme à qui appartient cette ceinture va être lié à Jérusalem de cette même façon. Et la ceinture est celle de Paul. Et à plusieurs moments, les disciples disent à Paul, va pas à Jérusalem, il y a quelque chose qui t'attend et l'Esprit nous dit que tu faut pas que tu y ailles. Et l'Esprit dit dans le cœur de Paul, va à Jérusalem. Tu dois y aller, il faut que tu te presses d'y aller, même si t'arrivera des choses difficiles. Et c'est compliqué, je trouve, des fois de connaître la volonté du Seigneur pour nous, et en même temps, des fois, d'avoir des choses qui viennent en sens inverse, et on a l'impression que ça vient du Seigneur. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ce genre de situation-là. Vous êtes persuadé que le Seigneur va faire les choses, et vous dites, il faut que je fasse ça. Et puis, par exemple, je sais pas, un ancien ou quelqu'un que vous considérez dans le Seigneur vous dit, il y a quelque chose du Seigneur pour toi et il faut pas que tu y ailles. En fait, mais alors je fais quoi? Le Seigneur me dit t'y vas, le Seigneur me dit t'y vas pas. Et c'est compliqué. Et en fait, à mon avis, la façon de faire du Seigneur, c'est vraiment pour éprouver Paul jusqu'au bout. Il lui a mis une parole au départ, et après il permet qu'il y ait des choses qui viennent en sens inverse, et il dit, alors maintenant, est-ce que tu tiens bon? Est-ce que tu tiens la parole que je t'ai donnée? Et je crois que c'est ça aussi dans nos cœurs, c'est retenir ce qui vient du Seigneur au départ. Il faut pas être aveugle, faut pas être sourd, et puis recevoir de direction. Des fois, le Seigneur donne une première direction, comme expliquait Micheline, et ben après, il modifie la trajectoire, et puis on a jamais des trajectoires toutes droites dans nos vies. Et il faut être à l'écoute du Seigneur pour pouvoir changer de direction quand lui nous l'indique. Mais s'il nous dit maintenant tu vas tout droit, alors il faut n'écouter que lui, n'écouter ni les circonstances, ni les personnes à côté, et aller tout droit. même si les choses nous disent faut aller en sens inverse, il va t'arriver des choses ou ça va être compliqué. Et il faut vraiment retenir ce que le Seigneur nous donne au départ. Le problème de ça, c'est qu'il faut être sûr que ce soit le Seigneur qui le donne au départ. Parce que ça m'est arrivé de penser quelque chose et de me dire, ah, ça c'est ce que le Seigneur il veut. Puis on fonce, tête baissée, et on reçoit des avertissements, des choses comme ça. Et finalement, arrivé le moment même où les choses devaient se produire, et ben rien. Et ça, si ça s'est pas produit, ben c'est clair que ça venait pas du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs fois les prophètes qui disent, voici je vais vous envoyer des prophètes. Si ce qu'ils disent vous arrive, alors vous reconnaîtrez que ça vient de moi. Mais si des gens vous disent des choses et que ça se produit pas, alors reconnaissez que ce sont des faux prophètes. Et c'est à ça qu'on reconnaît la volonté du Seigneur. Est-ce que ce que le Seigneur m'a dit, ça arrive? Si oui, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'avais bien écouté le Seigneur et c'était sa volonté. Sinon, alors ça veut dire que je m'étais trompé. Le Seigneur se trompe pas et il change pas d'avis non plus. La réponse de Paul, elle est très claire et je trouve ça épatant, c'est qu'il parle à des disciples. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est les disciples poussés par l'esprit qui disent à Paul de pas y aller. Des fois, on a tendance à se dire, moi je reçois la volonté du Seigneur et puis c'est toujours le malin, c'est le monde qui me fait aller en sens inverse. Mais non, là, le Seigneur, il utilise même des disciples pour éprouver Paul. Alors en fait, Paul... Donc je vais passer un peu rapidement quand même. Paul va retourner à Jérusalem et à Jérusalem, il va aller chez les frères là-bas et ils vont lui dire écoute, on a entendu tout ce que t'as fait, on a vu tout ce que t'as fait, mais les Juifs ils ont peur. Il y a quelque chose qui va pas dans tout ça et ils ont peur que tu demandes aux gens de plus observer la loi. Et ça posait un souci parce que si il y a une partie des chrétiens qui continuent d'observer la loi parce qu'ils étaient Juifs avant et qu'il y a une autre partie à qui on dit allez-y, il n'y a pas de problème, la loi, on s'en fiche, on n'observe plus. Alors, il y a deux types de chrétiens et il y a des choses qui vont pas. Et donc ça posait problème aux disciples. Et ils lui ont dit, écoute, tout le monde sait que tu es fidèle au Seigneur, tout le monde sait que tu continues d'observer la loi, alors va dans le temple, va offrir un sacrifice et continue tel rite. Donc là, il parlait d'un rite en particulier. Et donc Paul, il a simplement dit, d'accord, j'y vais. Et il a été faire ces choses-là. Et c'est, je trouve ça des fois un peu limite, le comportement de l'Église, parce que finalement, ils ont adapté un peu leur comportement, ils ont fait faire quelque chose à Paul pour dire de ne pas perdre des disciples, pour dire d'arranger les choses. Alors je trouve ça limite quand j'y pense à première vue, parce que je me dis, est-ce qu'on a le droit de modifier notre comportement? Est-ce qu'on a le droit de même adapter ce qu'on fait ici au micro? Qui on laisse venir au micro? Parce que sinon, on ne sait jamais s'il y a des gens de l'extérieur... Ils vont peut-être pas comprendre, ça va être compliqué pour eux, on risque de les perdre. Est-ce qu'on a le droit de modifier notre comportement comme ça, juste pour ces raisons-là? En réfléchissant, je pensais aussi à ce que Paul a dit aux Corinthiens, c'est dans 1 Corinthiens 8. Il y a deux passages dans Corinthiens qui disent à peu près qui disent des choses assez similaires. Il parle dans 1 Corinthiens 8 des viandes qui sont sacrifiées aux idoles. Et il dit que lui sait très bien que les viandes ne valent rien en elles-mêmes. Il n'y a rien de magique dans les viandes, il n'y a pas un esprit particulier. Il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Il n'est pas en train de proposer un régime végétarien à tout le monde, mais il dit simplement, si ça choque quelqu'un que je fasse ça, alors je m'en abstiendrai, uniquement pour pas le choquer, uniquement pour pas le perdre. Et il dit quelque chose d'assez similaire dans 1 Corinthiens 10, donc un petit peu après. Il parle toujours des viandes sacrifiées aux idoles. On peut le prendre à partir du verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et il continue après en disant, si vous voulez acheter, mangez ce que vous voulez, achetez ce que vous voulez. Mais si on vous donne un avertissement, on vous dit, attention, ça a été sacrifié aux idoles, alors n'en prenez pas. Uniquement parce que si la personne vous a donné cet avertissement-là, ça veut dire qu'elle pense quelque chose à propos de cette viande et à propos de ses idoles. Et donc il faut faire attention pour prendre soin d'elle et pour pas la perdre à Christ. Et je pense que l'Église, quand elle a voulu dire à Paul de accomplir ce rite-là au temple, c'était dans ce but-là. C'était uniquement pour pas perdre des gens et pour pas les perdre sur des broutilles. C'est peut-être pas des broutilles, la loi à cette époque-là, mais c'était quelque chose qui valait pas le coup, fallait pas insister dans cette direction-là au risque de perdre énormément de gens et de les perdre définitivement. Donc Paul a suivi ce conseil-là et en fait, on se demande s'il avait pas déjà... Dieu, il y avait parlé, et je pense que s'il l'a fait, c'était pas uniquement dans ce but de faire attention aux Juifs, c'était que le Seigneur lui avait parlé avant, il a dit, il faudra que tu fasses ça, ces choses-là, et il faudra que tu suives cette direction-là. C'est peut-être pas ce que tu aurais fait toi-même, mais suis cette direction-là, parce que c'est celle que je t'impose. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Paul parle à l'église d'Éphèse, avant même d'arriver à Jérusalem, et il dit, voici maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Je ne sais pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et la question qui est revenue ce matin souvent, c'était la question de savoir qu'est-ce qui m'attend. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et c'est une question, je pense, qu'on se pose tous. On aimerait bien savoir ce qui va se passer dans le futur. Et moi, le premier, je me dis, alors, quand est-ce qu'il va se passer ça? Quand est-ce que je vais trouver un travail? Ou, il y a plein de questions. Et en fait, c'est quand on regarde les films, souvent c'est positif de regarder dans le futur. Bon, on voit Retour vers le futur, c'est un grand classique. Quand vous allez dans le futur, vous voyez ce qui se passe, vous dites « Ah bah ça va pas, ça non plus ». Vous retournez, puis vous modifiez les choses. Comme ça, tout se passe bien. Sauf que, en général, c'est des films déjà. Hein. Et c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Si vous prenez la vie de gens qui regardent dans le futur... qui consultent les horoscopes, qui vont voir des voyantes, toutes ces choses-là, ils sont pas libres de changer le cours de l'histoire. Ils l'appliquent parce qu'ils y sont liés. Et si vous apprenez ce qui se passe dans le futur, c'est pas pour pouvoir le changer, vous allez être liés. Et il n'y a qu'une seule façon de connaître ce qui va arriver dans le futur et de le connaître d'une manière propre, c'est que le Seigneur vous le dise. S'il vous le dit pas, ne cherchez pas, c'est pas pour vous. Et ça, c'est clairement dans l'Ancien Testament. Dieu dit, si vous allez voir les voyantes, c'est une abomination. Si vous consultez les astrologues, les devins, les magiciens, toutes ces choses-là, c'est une abomination. Et abomination, c'est quelque chose de fort dans l'Ancien Testament. Tous les péchés ne sont pas appelés de cette manière-là. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment... Il y a une saveur particulière, une impureté particulière aux yeux de Dieu, en fait. Et si vous faites ça, vous êtes lié au malin. Il y a des péchés qui, dans un sens, tous les péchés vous engagent. Mais ce péché-là vous lie vraiment au malin, et après vous êtes plus libre de faire ce que vous voulez. Et en fait, on retrouve l'interdiction dans Deutéronome 18. Elle revient très régulièrement dans Nombre et Lévitique Deutéronome. Deutéronome 18, verset 10. On peut être ça. Ah d'accord, j'étais au chapitre 19 en fait. D'accord. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. dans le monde, c'est pas quelque chose de forcément très grave si on consulte un devin ou un astrologue. Ça fait rire les gens. L'horoscope, c'est une banalité que n'importe qui lit, et puis ben, c'est pas grave. J'étais marqué, moi, par un panneau publicitaire à Armentières, quand j'y habitais. Quand on part vers Lille et qu'on passe par la chapelle d'Armentières, il y a toute une série de feux, et après un grand rond-point qui donne vers l'autoroute. Et en fait, avant ce rond-point, il y a un panneau publicitaire où il y a systématiquement, tout le temps, toute l'année, une pub pour de la voyance. Et c'est vraiment un endroit où il y a des milliers de personnes qui passent là tous les jours et qui vont vers Lille. Et c'est affiché en grand, c'est public, ça choque personne, il n'y a personne qui a l'air de s'en offusquer particulièrement. Et ces choses-là, elles sont normales dans le monde, comme elles étaient normales dans les nations que Dieu il a chassées devant Israël. Pour nous, la chose du Seigneur, elle est claire, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. C'est pour ça, en fait, qu'on ne doit pas savoir, parce que si on sait ces choses, on n'est plus au Dieu, on est au diable, on est lié par des choses. Et on doit être complètement à Dieu, complètement en dehors de ces choses-là. Et le verset 14 dit, ces nations que tu chasses, écoute les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Si on doit écouter quelque chose, c'est Dieu. S'il nous révèle le futur, tant mieux. S'il ne nous le révèle pas, alors on n'a pas à le savoir. Et je pense, bien souvent, on constate qu'on est content de ne pas le savoir à l'avance, ce qui nous arrive. Et en fait, on a un exemple, de spiritisme dans la Bible. Je ne sais pas si vous savez lequel. Oui. Et donc, ça se trouve dans 1 Samuel, chapitre 28. Comme quoi, ce ne sont pas juste des choses que les gens font pour s'amuser. Il y a réellement des gens qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir. Et donc, dans 1 Samuel, au chapitre 28, donc Saül se prépare à aller à la guerre contre les Philistins. Et il veut savoir ce qui va se passer. Il a plus Samuel à côté de lui, Samuel est mort. Et il a plus Samuel pour l'aider à chercher les choses de Dieu. Et lui-même ne cherche plus les choses de Dieu. Ce qui est terrible, c'est que lui-même a fait partir du pays, a fait tuer tous les magiciens, tous ceux qui prédisaient l'avenir. Et maintenant, il a tellement changé dans son cœur que lui-même va chercher quelqu'un qui évoque les morts. Et donc, on le voit à partir du verset 6. Saül, en fait, on voit la raison pourquoi Saül consulte pas. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Et donc, il va aller la consulter, elle va lui faire venir des morts. Samuel, qui va lui parler. Et on voit la réponse de Samuel, qui est au verset 15 du chapitre 28. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Pourquoi il a fait appel aux morts? Parce qu'il n'entendait plus la voix de Dieu. Pourquoi il a voulu connaître le futur? Parce que Dieu lui disait plus rien. Et je crois que c'est à réfléchir, cette histoire, elle est intéressante. Pas juste parce que ça nous paraît fantastique et que ça ferait une belle histoire, mais simplement parce que on voit les motivations de Saül. Et Samuel lui répète exactement ce qui vient de Dieu. Saül consulte l'Éternel et l'Éternel lui répond pas. Pourquoi? Samuel lui dit, tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Et si des fois on a du mal à chercher la volonté du Seigneur, il faut à tout prix être sûr qu'on obéit au Seigneur. Parce que ça, c'est aussi un mur entre nous et lui. Et c'est quelque chose qui fait qu'il peut pas nous parler. Il y a des problèmes, il y a des interférences. Et ça sert à rien d'aller chercher les prophètes même, d'aller chercher Samuel, d'aller chercher les morts, d'aller chercher je ne sais pas trop quoi. Il faut avant tout chercher Dieu. Et en fait, vous connaissez la suite. Le lendemain, Saül est parti à la guerre. Il s'est déguisé, me semble d'ailleurs. Et pourtant, il est mort ce jour-là. Fatalité, Dieu lui avait dit, c'est arrivé. Et finalement, quand on pense au futur, on se dit, bah si je savais à l'avance, je pourrais modifier, mais non. Non. Si vous le savez d'une manière qui ne plaît pas à Dieu, vous ne pourrez pas le modifier. C'est écrit et ce sera accompli. Il y a une histoire qui nous rassure dans un sens, qui est l'autre pendant, qui est dans Deux Rois, quelqu'un qui a aussi, à qui Dieu, là c'est Dieu qui a parlé, qui lui a dit, tu vas mourir. Un roi d'Israël, qui s'appelait Ézéchias. Et en fait, on va pas aller la lire, Dieu avertit Ézéchias par le prophète, je crois que c'est Nathan, qui va mourir, et dit, tu vas mourir. Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il prie Dieu, il dit, Seigneur, je sais pas ce qu'il a dit exactement, mais prends pitié de moi. Et en fait, Dieu a entendu simplement sa prière. Et il a dit à Nathan, il semblerait que même Nathan était en train de repartir simplement du palais. Il dit, retourne, va le voir et dis-lui que je lui rajoute 15 ans à sa vie. Ésaïe ? D'accord. D'accord, autant pour moi. Et donc, Ésaïe retourne le voir et lui dit, Dieu t'a vu, Dieu a vu comment tu t'es humilié devant lui et il te rajoute 15 ans. Et ça veut dire que le futur, il n'est pas... Dans un sens, il est écrit d'avance. Si vous désobéissez à Dieu, la suite logique, elle est la mort. Il n'y a pas le choix. Mais si Dieu vous dit quelque chose, vous n'êtes pas bloqué. Ça ne va pas arriver forcément. Il vous laisse encore le choix. Et c'est ça qui est rassurant quand c'est Dieu qui nous parle et que c'est pas le malin, que c'est pas les morts ou tout un tas d'autres choses. C'est que vous avez encore le choix de modifier la trajectoire et de regagner la vie. On va s'arrêter là parce qu'il est l'heure de toute façon, mais c'est vraiment, je trouve, pour moi intéressant d'avoir préparé ça sur la question du futur, de savoir qu'est-ce qui se passe après, et d'entendre tous les témoignages ce matin, déjà même des fois de comprendre notre passé. Je crois que c'est déjà quelque chose de pas simple. On voit nos trajectoires, mais on les comprend pas forcément. Et quand on arrive à dire, le Seigneur m'a fait passer par là et par là parce qu'il voulait faire ça, c'est déjà un bon point. On sait déjà où le Seigneur veut nous amener et ça nous donne une petite idée de où est le point où on va après. On va prier. Seigneur, on connaît ces choses, on sait qu'on doit pas aller voir les voyantes, les devins, les magiciens et tout ce genre de personnes-là, mais Seigneur, tu vois nos cœurs qui bien souvent sont inquiets du futur et qui veulent savoir pour se rassurer. Et Seigneur, aide-nous à arrêter d'être comme ça, Seigneur, à nous tourner complètement vers toi, Seigneur, à t'obéir et à ce que tu puisses nous parler et nous montrer ce que tu veux de nous. Seigneur, quand tu nous parles, alors on n'a pas besoin de savoir exactement où on va. Paul ne savait pas exactement où il allait, mais il y allait parce que tu lui avais dit. Il savait pas exactement ce qu'il allait se passer, mais il y allait. Et Seigneur, nous voulons juste être devant toi, t'obéir, Seigneur, te faire plaisir, t'honorer et ne pas faire les choses que tu as en dégoût. Et Seigneur, alors nous savons que tu nous parleras et que tu nous montreras ce que nous devons faire. Merci de ta parole, Seigneur. Amen.